Ce sont des machines révolutionnaires qui existent à l'échelle nanométrique et qui ont valu cette année un prix Nobel au chimiste français Jean-Pierre Sauvage. On pensait ces machines moléculaires impossibles à fabriquer et pourtant l'intuition de Jean-Pierre Sauvage a été la bonne et ses premières publications sont arrivées au début des années 80. Machines moléculaires qui sont considérées comme les plus petites machines du monde et qui vont permettre de fabriquer une grande déclinaison d'objets avec beaucoup d'applications. Jean-Pierre Sauvage est l'invité aujourd'hui de l'émission pour nous faire entrer dans le nanomonde et nous présenter ses machines. Il répondra également en direct à vos messages et à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui l'urgence pour la grande barrière de corail en Australie.
Oui, on peut parler de désastre écologique. Après des pertes de coraux record en 2016, la grande barrière de corail connaît un nouvel épisode de blanchissement dû au réchauffement climatique. Cette succession est sans précédent et on en parle avec l'océanographe Jean-Pierre Gattuso.
Stéphanie Texier est aux commandes de notre Tête au Carré, préparée par Chantal Le Montagnier avec Thomas Lehété.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Jean-Pierre Sauvage.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez donc reçu cette année le prix Nobel de chimie avec Fraser Stoddart et Bernard Feringa pour votre développement des machines moléculaires. Alors on peut voir à Stockholm un document que vous avez offert au musée Nobel et qui date de 1983 avec pour titre une nouvelle famille de molécules, les métallocaténanes. C'est cette publication qui vous avait eu le Nobel 33 ans plus tard ?
Ça a sans doute contribué. Maintenant, savoir si c'est seulement cette publication, je pense qu'on peut le douter.
Il y a deux documents, en l'occurrence, au Musée Nobel.
Il y a deux documents. Il y a les projets de recherche qui ont été rédigés un an avant. Et ensuite, il y a cette première publication.
Ouais. Et il y avait tout dans ces documents, finalement, sur ce que vous
avez
développé ?
Disons, il y avait une partie importante, au moins du début, c'est-à-dire de la fabrication d'anneaux entrelacés.
Ouais.
Qui ont été les précurseurs des machines moléculaires.
Ouais, on va en parler avec vous dans quelques instants. Je le disais dans le sommaire, personne ne pensait avant que c'était possible justement d'en fabriquer. Vous allez nous raconter comment vous avez découvert justement ces machines qui sont considérées comme les plus petites au monde et puis quelles sont les applications qui pourraient en découler. Et puis aussi, à quoi ressemble votre vie de Nobel aujourd'hui, Jean-Pierre Sauvage. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science, aujourd'hui, la grande barrière de corail en péril.
Une catastrophe écologique est en train de se jouer sous les mers d'Australie. Au moins 35% des coraux du nord et du centre de la grande barrière australienne sont morts ou en train de mourir sous l'effet d'un épisode de blanchissement très grave. Une décoloration, synonyme de dévitalisation, qui est due au réchauffement climatique et à la hausse des températures dans cette zone.
Voilà, extrait d'un journal d'Euronews daté du 30 mai 2016. Et justement, cette année 2016, la partie nord de la grande barrière de corail en Australie qui a été dévastée sur une distance de 700 km. C'est un tiers de sa longueur totale, une véritable hécatombe. Aujourd'hui, une quarantaine de chercheurs annoncent dans la revue Nature que la grande barrière pourrait ne jamais se remettre de cette année noire. Ils alertent aussi sur un nouvel épisode de blanchissement en cours. Et cette fois, tout cela est dû au réchauffement climatique. On en parle avec vous, Jean-Pierre Gattuso. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. Comme tous les lundis, Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporter.net, notre partenaire, est avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
C'est quoi la barrière de corail exactement, Hervé ?
C'est un écosystème vivant absolument extraordinaire. C'est sur 350 000 km² le plus grand récif corallien du monde, au nord-est de l'Australie, et qui est, dit-on, la plus grande structure du monde visible depuis l'espace, structure du monde créée par des organismes vivants. C'est en fait une accumulation de milliards d'organismes minuscules qu'on appelle les coraux polypes et qui sont des animaux à squelette calcaire. Et en fait, l'ensemble du massif, cette grande barrière, c'est une accumulation de ces milliards et milliards de coraux et de squelettes en calcaire. C'est une structure qui est très sensible au réchauffement climatique. Et là, on a vécu effectivement 2016, le troisième épisode de blanchissement, c'est-à-dire de dépérissement des coraux qui conduit à leur mort. Et c'est l'épisode le plus grave, selon les chercheurs dans cette étude parue dans Nature le 15 mars. Seuls 9% des coraux auraient échappé au blanchiment cette année.
Ouais. Agnès.
Oui, Jean-Pierre Gattuso, selon l'étude de Nature, justement, la survie de la Grande Barrière dépend aujourd'hui d'une action urgente et rapide pour limiter le réchauffement du climat, rien que ça. Ça signifie que les mesures mises en place pour protéger ces coraux ne fonctionnent pas ?
Tout à fait. Il faut, pour solutionner ce problème du blanchissement, il faut régler cette question du réchauffement climatique. Et donc, beaucoup d'entre nous pensions que en essayant de protéger les récifs, en essayant de limiter les apports de pollution, ça permettait de gagner du temps en attendant que les mesures décidées à la COP21 se mettent en œuvre. Or, la mauvaise nouvelle de cet article que Terry Hughes vient de faire paraître, c'est que en fait, on voit que la Grande Barrière de Corail, qui est certainement le parc marin le mieux géré du monde depuis les années 70, quel que soit le niveau de protection de ces différentes zones, il y a des zones qui sont totalement protégées, d'autres qui le sont moins, toutes les zones, quel que soit le niveau de protection, ont subi ce phénomène de blanchissement. Donc il semble que la protection, la création de parcs marins ne permet pas de contrebalancer cet effet du réchauffement climatique. Et de la même manière, les récifs sont affectés, qu'ils soient proches de la côte, donc potentiellement soumis à des pollutions d'ordre terrigène, ou qu'ils soient loin de la côte. Tous les coraux sont soumis à ce phénomène de blanchissement. Donc ce qui semble montrer que les actions locales n'ont pas beaucoup d'impact. Il faut absolument que les actions globales, la limitation du réchauffement, se mettent en œuvre le plus vite possible, oui.
Parce que, alors, qu'est-ce que ça signifie, en fait, la répercussion de ces épisodes successifs de blanchissement sur les coraux ? Tous ne sont pas morts, mais ils pourraient mourir plus rapidement,
C'est ça. Les coraux, en fait, si le stress de température est suffisamment court, les coraux blanchissent, donc expulsent leurs algues symbiotiques dont ils ont absolument besoin pour survivre, mais ils parviennent à les récupérer des algues si le stress est suffisamment court. Or là, on arrive à une étape où on a presque tous les ans des phénomènes de blanchissement, et donc ça laisse penser que le temps de récupération entre deux phénomènes de blanchissement devient de plus en plus court et il n'y a pas de récupération qui va être possible.
Hervé, quelles conséquences aurait la mort de cet organisme géant ?
Alors les services rendus par les récifs coralliens sont extrêmement nombreux. D'une part, ce sont des zones où la biodiversité est parmi les plus importantes dans le milieu marin. Donc il y a beaucoup de poissons qui viennent se reproduire dans des récifs et vont ensuite mener leur vie d'adulte à l'extérieur, et donc c'est des ressources pour la pêche. Un autre service que nous rendent les récifs coralliens, c'est la protection des rivages de l'érosion, de l'action destructrice des houles et des vagues, des cyclones. Un récif en mauvais état ne protège plus la côte. Et enfin, les ressources économiques qui sont tout à fait importantes, notamment sur la Grande Barrière de Corail, beaucoup de plongeurs, il y a 2 millions de personnes qui viennent visiter la Grande Barrière de Corail par jour, ça représente beaucoup d'emplois et ça fait vivre beaucoup de monde. Et donc tous ces bénéfices risquent d'être perdus si la Grande Barrière de Corail perd cette image de merveille de la nature.
Outre ces répercussions du réchauffement climatique sur la Grande Barrière de Corail, est-ce que la hausse des températures a d'autres effets sur l'environnement en Australie ?
Eh oui, beaucoup. Il y a quelques mois, on a vu que durant l'été austral, les températures en Australie ont atteint des records, 47 ou 48 degrés. Et donc ça a créé aussi une mortalité massive en 2016 des mangroves du nord-est de l'Australie, dans le golfe de Carpentarie, où 6% des mangroves sont mortes de cet effet de la température et aussi d'un phénomène qui est lié à El Niño et qui fait que le niveau de la mer a légèrement baissé d'une quinzaine ou une vingtaine de centimètres, ce qui a fait que les mangroves ont manqué d'eau. Il y a aussi des mortalités massives d'invertébrés qui ont été observées en Australie occidentale. Donc l'Australie, oui, c'est un pays qui est vraiment extrêmement affecté par ces changements climatiques et cet impact des
activités. Jean-Pierre Gattuso, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle quand même cette publication, parce qu'on voit bien que le processus de réchauffement climatique, il est extrêmement long à freiner et aller dans le sens inverse justement d'une augmentation des températures, c'est pour l'instant quasi impossible. C'est-à-dire qu'on parle vraiment sur des décennies et des décennies, donc c'est pour cette barrière de corail en tout cas très très inquiétant, non ?
Absolument, c'est très inquiétant. On voit que, je parlais tout à l'heure de l'accord de Paris, dont l'objectif est de limiter le réchauffement à 1,5 degré, si possible, et à 2 degrés. Et on voit qu'aujourd'hui, dans beaucoup de zones du monde, on est à plus 1,2, et donc on est très très proche de ce seuil de 1,5, et on a déjà des manifestations extrêmement inquiétantes de l'impact du réchauffement, et donc quand on considère aussi le fait que certains pays qui étaient très engagés dans l'accord de Paris, comme les États-Unis, semblent vouloir s'en désengager, tout ça, ça fait peur, oui.
Hervé,
Le Premier ministre australien est très favorable à l'industrie du charbon. Est-ce que vous pensez que ce que vous venez de nous expliquer sur la mangrove, ce qu'on vient d'apprendre sur la Grande Barrière de Corail, peut le faire évoluer?
Alors je ne sais pas, je ne suis pas très au fait de la politique en Australie. Ce que je sais, c'est que l'Australie en fait a un double langage. C'est-à-dire qu'elle s'est démenée de façon incroyable il y a deux ans pour éviter que la Grande Barrière de Corail, qui est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, soit déclarée en danger. Ce qui serait une mauvaise image pour l'Australie. Et donc le gouvernement s'est activé contre ça. Ils ont réussi, la Grande Barrière n'a pas été listée comme en danger, mais elle risque de l'être, je pense, très prochainement. Donc d'un côté, on se préoccupe de la Grande Barrière, mais d'un autre côté, le gouvernement australien continue à exploiter de façon incroyable les mines de charbon. Ils viennent de donner un permis à une société indienne pour exploiter une mine gigantesque dans le Queensland. Et donc l'Australie, de cette façon-là, aussi contribue à renforcer le réchauffement climatique. Donc il y a une sorte de double langage qui est vraiment pas très sain, je trouve.
Jean-Pierre Sauvage, est-ce que vos machines moléculaires pourraient justement aider à l'environnement d'une façon ou d'une autre dans les applications possibles, probables?
Ah, mais nous espérons qu'elles aideront à des tas de choses importantes. Mm-hmm. Disons, la première idée qui me vient, c'est dans le domaine de l'informatique.
Ouais.
Et vous savez que l'informatique est extrêmement énergivore. Disons, tous les systèmes de stockage, de manipulation de l'information consomment énormément d'énergie.
Oui.
En même temps, il faut les refroidir.
C'est ça, parce que absolument.
Ça coûte encore plus cher, disons, en énergie pour les refroidir.
Les data centers, par exemple.
Voilà, les data centers. Donc, avec des machines moléculaires qu'on pourrait utiliser pour stocker et manipuler l'information.
Oui.
Donc faire des systèmes mémoire, on pourrait espérer avoir des techniques très douces, disons beaucoup beaucoup moins énergivores.
Bon, Jean-Pierre Gattouzon, on prend ça, hein, on en prend bonne note en tous les cas, effectivement. Et puis en attendant, on peut lire cette publication peu réjouissante, on l'a compris, dans la revue Nature, et on retrouvera des informations sur reporter.net également, Hervé. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre Gattouzon.
Merci, au revoir.
Bonne journée et à demain, Agnès.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un fleuve néo-zélandais reconnu comme une entité vivante, le Whanganui, fleuve sacré pour les Maoris, a été doté d'un statut juridique. La décision a été entérinée par le Parlement néo-zélandais la semaine dernière. Désormais, le fleuve pourrait être défendu au sein d'une cour de justice comme un humain. Il sera représenté par deux personnes issues respectivement du gouvernement et de la tribu Maori qui porte le même nom que le fleuve. C'est le résultat d'une longue lutte de cette communauté dont le bien-être estime-t-elle dépend directement de celui du fleuve. Les pans bleus mâles lorgnent davantage sur les mâles que sur les femelles en période de reproduction, c'est ce que suggère une étude américaine qui a utilisé un système de suivi du regard sur les pans bleus. Ils passent presque 28% de leur temps à observer les autres mâles contre seulement 3% à regarder les femelles. Mais il ne s'agit pas de draguer, plutôt de se comparer. Ils font particulièrement attention au plumage de leurs rivaux, leur principal atout pour séduire les femelles, mais aussi aux pattes, puisque c'est avec elles qu'ils se battent en cas de compétition. Et puis enfin, la planète Vénus, visible en plein jour et à l'œil nu pendant encore quelques jours, elle sera facilement repérable à l'aube et au crépuscule. Le 25 mars, elle sera parfaitement alignée entre le Soleil et la Terre. D'ici là, l'étoile du Berger va se rapprocher de notre planète de plusieurs centaines de milliers de kilomètres chaque jour. Pour ceux qui voudraient tenter l'observation, au matin, regardez vers l'est, à gauche du Soleil, quelques minutes avant son lever. Et le soir, c'est à l'ouest que ça se passe. Quelques minutes avant le coucher du Soleil, décalez votre regard vers la droite. Allez, Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie, notre invité dans un instant et dans la tête au carré.
Before we fall. vetenskaps akademin har beslutat att utdela 2016 års Nobelpris i kemi gemensamt till Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa för design och syntes av molekylära maskiner. L'Académie royale des sciences de Suède a décidé ce jour d'attribuer le prix Nobel de chimie 2016 à Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart et Bernard L. Feringa pour la conception et la synthèse des machines moléculaires.
Voilà, et Jean-Pierre Sauvage, vous êtes notre invité cet après-midi pour nous parler évidemment de ces travaux sur les machines moléculaires et puis nous parler également de votre nouvelle vie de prix Nobel avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors vous êtes professeur émérite à l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire à l'Université de Strasbourg, Jean-Pierre Sauvage, directeur de recherche émérite au CNRS. Et donc le 5 octobre dernier, vous appreniez quasiment en même temps que nous, hein, c'est ça? Il y a eu un petit décalage de combien de temps?
Il y a eu un petit décalage d'une demi-heure.
Une demi-heure seulement, ouais. Qu'est-ce que vous faisiez ce 5 octobre, alors juste au moment
alors,
de l'annonce?
Ce 5 octobre, j'étais dans mon bureau à l'Institut ISIS, comme à peu près tous les jours de la semaine.
Donc à Strasbourg.
À Strasbourg. Et je m'apprêtais à regarder sur le site Nobel pour découvrir le nom des heureux élus du prix Nobel, puisque le mercredi, c'est le jour de la chimie.
Ouais.
Et une demi-heure avant l'annonce officielle, donc vers 11h15, j'ai reçu un coup de téléphone de Stockholm. Une voix très solennelle, très sérieuse, m'a annoncé que j'étais lauréat Nobel pour la chimie avec mes deux autres co-lauréats. Ouais. Ce qui a été difficile à croire tout au début.
C'est vrai. Ça a duré combien de temps finalement, votre trouble, jusqu'à ce que vous compreniez vraiment qu'il s'agissait bien de l'Académie Nobel?
Ça a duré quand même peut-être 2-3 minutes, jusqu'à ce que le président du comité Nobel appelle des gens du comité qui étaient présents, des gens que je connais. Donc ils sont venus au micro, qui m'ont parlé, il y avait deux amis même qui m'ont parlé. Je les ai bien sûr identifiés. C'était bien eux.
C'est ça.
Donc voilà, c'était réel. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce qu'évidemment, vous ne vous y attendiez pas. Il y a beaucoup de personnes et de scientifiques qui potentiellement peuvent avoir le prix Nobel.
Bien sûr, même
en chimie. Mais il y avait eu quand même des indices laissant penser que vous pouviez l'obtenir.
Disons, les seuls indices que j'avais eus, c'est des amis qui, depuis une dizaine d'années, de temps en temps, me disaient « Ah, tu pourrais être sur les listes, ça pourrait arriver ». Des choses comme ça. Même d'autres qui me disaient cette année, je fais une nomination pour toi. Des Japonais, des Américains, des Français même. Mais je n'y ai jamais cru parce que le domaine scientifique dans lequel mon labo a travaillé est un domaine très fondamental avec très peu d'applications aujourd'hui. Et c'est le cœur de la chimie. La tradition, disons, du comité Nobel, c'est souvent d'associer la chimie à quelque chose de plus appliqué, à une autre science, comme la médecine, la physique, la spectroscopie. Mais la chimie pure, disons, il y a déjà eu des prix Nobel, même assez souvent. Mais ça me semblait peu probable, très peu probable.
En tout cas, les promesses d'application sont nombreuses, hein. On va en parler
c'est
avec
certain,
vous.
Et
probablement
c'est
que le comité l'a bien compris aussi en vous attribuant ce prix Nobel. Alors, donc ce 5 octobre, finalement, vous avez basculé dans une nouvelle vie, hein, parce que là, ça a été vraiment le début d'autre chose, avec le téléphone qui n'a plus cessé de sonner pour vous inviter. Vous avez vraiment ce sentiment là qu'il y a eu
un avant et un après
5 octobre?
Il y a eu une rupture complète. Ouais. D'ailleurs, j'ai un bon ami qui a eu le prix Nobel il y a une dizaine d'années, qui m'a envoyé un message tout de suite, en anglais, en disant « Jean-Pierre, c'est une nouvelle vie ».
Ouais.
Bing, c'est tout, quoi. Et c'est une nouvelle vie.
Ouais. Et ça consiste en quoi, alors, cette nouvelle vie, principalement?
Cette nouvelle vie, ça a rien de désagréable. Disons, c'est simplement un peu plus fatigant, même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de pression. Ça consiste à communiquer. Disons, par toutes sortes de moyens, à répondre à la curiosité des médias, que ce soit des journaux, des radios, des télés, à faire des interviews, et là encore, enfin, c'est plutôt agréable.
Est-ce que vous êtes conscient d'avoir une voix qui pèse aussi?
Je suis conscient d'avoir une voix qui est plus écoutée que s'il n'y avait pas eu un prix Nobel derrière, ou devant. Mais voilà, donc beaucoup de rencontres avec des jeunes gens, beaucoup de rencontres avec des scientifiques aussi.
Ouais. On peut dire qu'il y a une école alsacienne du prix Nobel de chimie, Jean-Pierre Sauvage.
Parce que c'est très très difficile.
Vous êtes le troisième, donc après un autre Nobel, Jean-Marie Laine, qui a été votre directeur de thèse.
Absolument.
Et puis un autre chimiste qui a travaillé aussi en Alsace, Martin Carplus, qui l'a reçu lui en 2013. Donc l'Alsace, terre fertile pour la chimie.
Pour la chimie, bon, la biologie se porte bien aussi. Mm-hmm. Mais oui, je ne sais pas exactement pourquoi, disons, ça marche plutôt bien pour la chimie alsacienne.
Ouais. Il y a une école de chimie très forte quand même.
Il y a une école
très forte,
il y a une tradition de chimie depuis
très
longtemps.
Qui remonte à quand d'ailleurs, ouais.
Oh, disons, bon, peut-être qu'il y a eu une influence allemande à un moment, dans la mesure où la chimie est une science à l'origine qui est fortement teintée d'Allemagne. Il y a eu aussi une personne qu'on doit remercier fortement, qui est le professeur Guy Ourisson,
ouais,
qui a été secrétaire d'État à la recherche il y a fort longtemps, et qui a vraiment fait la promotion de la chimie et des jeunes scientifiques.
Ouais. Mais ça a été un de vos profs ou pas ?
Ça a été l'un de mes profs, disons. C'était le mentor de Jean-Marie Laine.
Ouais.
Donc je me considère comme un petit-fils de Guy Ourisson.
Vous avez eu le grand-père avec Guy Ourisson et le père avec Jean-Marie Laine.
Voilà,
c'est un peu
voilà,
votre filiation.
C'est exactement ça.
Ouais.
Et Guy Ourisson a eu un rôle formidable.
Pour vous aussi,
pour moi
votre
aussi,
intérêt pour la chimie.
Je pense que l'intérêt pour la chimie a été en bonne partie influencé par lui. C'était un prof, disons, je l'ai eu comme professeur en tant qu'étudiant. C'était un prof extrêmement motivant. Et plus tard, il a vraiment insufflé cet esprit à Strasbourg d'essayer de promouvoir les jeunes, disons de laisser les jeunes s'exprimer sur leurs idées de manière totalement indépendante.
Est-ce qu'il avait une façon originale de faire ses cours ou pas ?
Ah, il avait une façon très originale. Il était capable, pour montrer les mouvements moléculaires ou des réactions, il était capable de monter sur une paillasse ou sur l'estrade et de faire des mouvements avec ses jambes et ses bras.
Ah oui, danser avec ses
véhicules. Il y avait une gestuelle, disons, qui était fantastique.
Et ça, c'est précieux d'avoir des profs comme ça, non ?
C'est merveilleux.
Ouais.
J'avais des copains à l'époque qui séchaient beaucoup, beaucoup de cours.
Ah, ils venaient en cours de chimie ?
Et Ourisson faisait cours le samedi matin à 8h.
Ah oui, il fallait vraiment avoir envie de venir.
Et tout le monde était là.
Ouais.
C'était vraiment un grand succès. Quoi.
Ouais. Comment vous êtes arrivé à la chimie, au fond, Jean-Pierre Sauvage, justement ? C'est grâce à des gens comme lui, précisément ?
Non, la chimie, disons, m'a beaucoup plu depuis que j'étais un ado, peut-être 16 ans.
Qu'est-ce qui peut plaire à un ado en chimie ? C'est quand même une matière un peu austère au départ, non ?
Disons, on peut faire des tas d'expériences amusantes.
Ah oui.
Donc, je faisais déjà des expériences amusantes. J'avais un petit peu de matériel.
Amusante et dangereuse
Non, pas dangereuse. Non, c'était plutôt presque de la biochimie, extraire des colorants, des feuilles, séparer les chlorophylles sur du papier, des choses comme ça, pas du tout méchantes, mais proche de la biologie, proche des substances naturelles. Et pour tout dire, j'étais bon en maths. J'étais meilleur en maths qu'en autre chose. Mais la physique me passionnait pas, donc à un moment il fallait choisir entre maths et chimie, voilà.
Ouais. Et vous aviez cette envie d'être un découvreur ? Est-ce que ça faisait partie de votre curiosité naturelle de...
Ça vient un petit peu plus tard tout ça, disons il faut des influences fortes. J'ai été fortement influencé par Jean-Marie Laine, qui a été mon boss quand j'étais thésard, et qui m'a montré la passion en fait, il m'a appris la passion pour la science.
Ouais.
Il m'a appris aussi comment on doit gérer un groupe, quelles sont les meilleures relations à avoir dans un groupe pour que le groupe soit heureux et productif à la fois. Ça va très souvent de pair. Voilà, donc je dois énormément à Jean-Marie, de ce point de vue-là.
Est-ce que la découverte, justement, qui vous vaut le Nobel aujourd'hui, c'est d'abord une découverte collective aussi ?
C'est une découverte collective, absolument. Disons, les sciences expérimentales sont des sciences d'équipe. Et la chimie en particulier. Donc il y a eu des gens dans mon labo qui ont eu des contributions phénoménales. Et il y a une dame que j'aimerais quand même citer, qui s'appelle Madame Dietrich Buchecker, qui était directeur de recherche au CNRS, qui a apporté tout un domaine d'expertise que je n'avais pas dès le départ de notre labo. Et disons, notre équipe lui doit énormément de ce point de vue-là.
Jean-Pierre Sauvage, retournons un instant à Stockholm. C'était le 10 décembre et là, les trompettes sont de sortie pour vous.
Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser Stoddart et Ben Fearingham. You are being awarded the Nobel Prize in Chemistry for the design and synthesis of molecular machines. On behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, I wish to convey to you our warmest congratulations. May I now ask you to step forward and receive your Nobel Prizes from the hands of His Majesty the King.
Jean-Pierre Sauvage, que s'est-il passé dans votre tête, ou dans votre cœur d'ailleurs, au moment où ces trompettes ont retenti, là, ce petit passage très court, où vous rejoignez le pupitre?
Bon, disons, c'est à la fois très émouvant, et en même temps, ça paraît complètement irréel. Disons, on est obligé de se pincer en permanence, pour bien se convaincre que, oui, c'est moi, là, c'est moi.
C'était un moment de plaisir, quand même, ou...
Ah, c'est un moment de plaisir.
Ou c'est du trac avant tout, et un peu de tension?
Très peu de trac. Mais disons, c'est un moment de bonheur, c'est certain, pour un scientifique. Disons, c'est un moment de bonheur pour soi-même, mais aussi, pratiquement dans l'ordre, pour l'équipe, pour tous les gens avec lesquels on a travaillé, qui ont quand même aussi une fraction de ce prix Nobel, qui sont mis à l'honneur, eux également. Et ensuite, bien sûr, pour votre famille, c'est quelque chose de très important.
Allez, on se retrouve dans un instant, Jean-Pierre Sauvage. Vous êtes l'invité de La Tête au Carré. Et bien sûr, nous allons parler et découvrir ensemble vos machines moléculaires.
Du haut de tes talons de glace, tu danses et tu t'éclipses. Tu traces ta route dans ton blouson dégueulasse, les mains hautes, tendues sans réponse, creusées sans espoir, sans l'once, dans l'endemain qui pourrait dire je t'aime et parfois même te dire que tout est bon. Moira Gibbs, dans tes baskets effoncées, tes vêtements de prêt-à-porter, c'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. Moira Gibbs, le vent dans tes cheveux défaits, tu t'es dissimulé vers un ailleurs. Tes lèvres grises et de rancœur de n'avoir pu effleurer les miennes. Je rêve que tu n'as plus peur et que l'on découvre ensemble les rues de Sienne. J'espère partager ta tendre mélancolie. Mes jours sont de marbre, bien plus noirs et tristes que mes nuits. La pluie sourde et déluvienne abîme cette scène. Je me jette dans la Seine. Je me jette dans la Seine. Métaphore d'un laisser pour compte qui va et qui vient ne fait que passer. Car oui, l'amour se défile et défile, il nous casse la gueule sans trop de difficultés.
Team Dup à l'instant sur France Inter.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et Jean-Pierre Sauvage qui nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi dans l'émission pour nous parler bien sûr de chimie, de son prix Nobel et de ses travaux sur ces machines moléculaires. J'aimerais encore qu'on s'arrête un instant sur votre famille de chimie, on pourrait le dire, à Strasbourg avec Jean-Marie Laine. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il était un peu votre père de chimie. Lui a reçu le prix Nobel en 87. Vous l'avez accompagné d'ailleurs à l'époque à Stockholm,
c'est ça ? Absolument, avec mon ami Bernard Dietrich. Oui. Puisque nous étions les deux thésards à avoir travaillé sur les molécules cages de Jean-Marie Laine.
Ouais. Écoutons ce reportage justement qui avait été tourné à l'époque en 1987, donc a priori vous n'étiez pas très loin de lui.
Jean-Marie Laine n'a pu prononcer une allocution à l'issue de ce banquet et s'exprimer au nom des deux lauréats américains avec qui il partage son prix. Pour le chercheur alsacien, les supermolécules, les molécules hôtes et les éthers couronnes révélés par les trois scientifiques avaient un nom prédestiné qui conduisait tout droit au Nobel.
Je soupçonne mes deux compagnons de fortune d'en avoir posé les jalons de longue date. En effet, Charles Peterson n'a-t-il pas appelé ces molécules des éthers couronnes? Donald Cram n'a-t-il pas entrevu déjà ses hôtes illustres et ses invités hautement sélectionnés? Quant à moi, beaucoup moins appréciant, je ne puis que m'exclamer « C'est super, super, super molécule !»
Jean-Marie Lay n'a avoué ne pas trop regretter le calme de son laboratoire strasbourgeois. Ce marathon suédois ne l'a visiblement pas épuisé. Son séjour se termine mercredi prochain.
Moi, je trouve que c'est relativement simple. Quand je vais faire des conférences dans des universités et que je visite des labos, c'est beaucoup plus de travail. Ici, on se laisse porter par la vague un peu. C'est tellement bien organisé qu'on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup à ce qui va se passer.
Voilà, Jean-Marie Lay en 1987. Et vous étiez donc du voyage, Jean-Pierre
J'étais
Sauvage,
du voyage,
à Stockholm.
Jean-Marie avait été très, très généreux.
Vous avez été donc, il a été votre directeur de thèse, Jean-Marie Lay. Et là, vous êtes retrouvé quoi, il y a 5 ans, c'est
oui,
ça
Oui, il y a 5 ans, lorsque j'ai déménagé de l'institut dans lequel je travaillais avant, mm-hmm. pour rejoindre l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire. Ouais. Dont il est le père fondateur.
C'est ça. Il y a un lien entre son prix Nobel et le vôtre ou pas? Alors, lui avec la chimie supramoléculaire, vous avec les machines moléculaires?
Disons, c'est dans le domaine des molécules. C'est
voilà, ça on l'a compris.
Des molécules complexes, oui, oui. Des molécules qu'il faut fabriquer, concevoir, etc. Mais disons, il n'y a pas une relation directe.
Oui. Alors justement, ce travail sur les machines moléculaires, on le disait tout à l'heure, ce papier de 1983 qui date justement et qui donne un petit peu la date de naissance de vos travaux. Comment vous avez choisi de travailler sur cette question justement? Vous évoquiez ce travail d'équipe tout à l'heure. Comment on s'embarque dans ce domaine?
Alors voilà une question très intéressante. Je vais essayer d'être bref. Donc mon labo travaillait à l'époque dans le domaine de l'énergie solaire,
oui.
C'est-à-dire d'essayer de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et on utilisait des molécules bien particulières, très, très colorées. Et à un moment, disons, on est tombé sur une molécule que nous avions fabriquée, qui semblait être le précurseur parfait pour faire deux anneaux entrelacés. Alors je sais qu'on ne peut pas me voir, mais voilà, deux anneaux entrelacés comme ceci. Et il a fallu prendre une décision. Est-ce qu'on quitte le domaine de recherche qu'on connaissait avant pour sauter complètement dans l'aventure et dans l'inconnu ou pas? Et grâce à l'arrivée de Christiane Dietrich-Buchecker et à l'expertise qu'elle a portée dans notre équipe, on a sauté. On s'est lancé dans un domaine complètement nouveau qu'il fallait totalement découvrir. Et ça a marché très très vite grâce à elle et à d'autres personnes.
Alors, c'était quoi finalement le moment où vous avez senti que vous aviez découvert quelque chose? Il y a eu une intuition quand même, il y a eu quelque chose de très fort de votre part en particulier, je crois.
Oui, on peut pas nier qu'il y ait eu une intuition, bien sûr. Mais ensuite, il fallait donner les moyens à cette intuition d'être matérialisée par un travail expérimental difficile et de haut niveau. Donc à partir du moment où on a eu des anneaux entrelacés, on a compris aussi qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait commencer à faire bouger ces anneaux, les uns dans les autres, ou à utiliser des anneaux enfilés par un axe, déplacer cet anneau le long de l'axe, d'un endroit à un autre endroit, etc. Donc ça ouvrait tout un ensemble de perspectives.
Ouais. Donc il fallait trouver la bonne recette, au fond, c'était ça?
Oui,
pour que ces anneaux soient entrelacés.
Voilà,
avec de bons atomes, c'était ça l'idée, c'est de trouver les bons atomes.
Disons, il fallait avoir, quand même au départ, il fallait avoir l'idée générale. Quelle stratégie utiliser pour fabriquer ces anneaux? Et a priori, ça, c'était pas totalement évident. Sinon, d'autres labos auraient certainement fait ça. Donc il y a eu cette étape, quoi, cette intuition avec cette idée générale. Et ensuite, tout le travail expérimental qui a suivi.
Ouais, mais là, vous êtes allé, au fond, à contre-courant aussi d'une idée qui était de dire qu'on n'arriverait jamais à fabriquer ça parce que c'était impossible.
Ça semblait extrêmement difficile.
Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec toute une équipe, on s'embarque quand même à contre-courant et qu'on y va? Voilà, on va chercher avec tout l'aspect fondamental de ces
complètement
travaux.
Complètement fondamental.
Donc de l'inconnu quand même, face à vous.
De l'inconnu et en plus, je dirais, c'est doublement à contre-courant, ou ça le serait aujourd'hui, c'est que les applications de ce domaine ne semblaient absolument pas évidentes.
Oui.
disons, c'était une espèce de pari gratuit, fabriquer des anneaux entrelacés.
On ne savait même pas à quoi ça pourrait servir plus tard.
On ne savait pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Mais, disons, la période n'était pas celle d'aujourd'hui. Et on avait moins besoin de présenter des applications dans ces projets, dans les demandes de programmes, les demandes de subventions. On pouvait se permettre à l'époque de dire, voilà, on peut envisager des applications dans tel ou tel domaine, à relativement long terme, mais simplement d'un point de vue purement fondamental, on sait que c'est original.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus faire cette même découverte et vous ne pourriez plus avoir un prix Nobel dans ce domaine-là ?
C'est une question difficile, ça. Ça serait certainement beaucoup plus difficile de convaincre les instances qui nous financent de démarrer des projets aussi farfelus.
Ah, c'était perçu comme farfelu à l'époque.
Alors, je pense, oui. C'était original. Personne, disons, n'aurait émis de doute quant à l'originalité des projets. Mais les gens, aujourd'hui, demanderaient vers quel type d'application vous vous dirigez.
Ouais. Et vous n'avez jamais douté, justement ?
On s'est lancé, c'était vraiment le pari.
Ouais. Mais c'est gonflé, hein, parce qu'on embarque une équipe avec soi, hein. C'est ça aussi
Pas toute l'équipe, on avait aussi d'autres projets.
Ouais.
Disons, dans beaucoup d'équipes, c'était une jeune équipe, et dans une jeune équipe, en général, il y a plusieurs projets de recherche qui sont lancés en simultané.
Ouais.
Et ensuite, donc les projets avancent, certains n'avancent pas bien, d'autres vont bien. Donc on n'a pas mis tous nos œufs dans le même projet, en fait.
Ouais, ouais. Et ce nom de Caténane, alors c'est vraiment ces anneaux entrelacés, c'est ce que ça
le
exprime
nom, le nom n'est pas de nous. Caténane, c'était déjà utilisé par des gens qui en rêvaient ou qui avaient essayé de synthétiser des molécules comme ça. Oui, ça vient du latin, simplement catena, qui veut dire chaîne.
Ouais.
Donc la plus petite chaîne, ce sont deux anneaux entrelacés, puisque c'est une catena, une chaîne.
Et Jean-Pierre Sauvage, vous vous souvenez du jour où vraiment vous êtes parvenu à cet entrelacement pour la toute première fois ?
Ah, je me souviens.
Vous avez
très
pu l'observer
bien,
donc à l'échelle nanométrique ?
Oui, disons ça, c'était le travail de Christian Dietrich, Bucheker et voilà. Oui, je me souviens peut-être pas du jour, mais disons. Il y a eu des moments forts dont on se souvient quand même, quand on a la preuve indiscutable qu'on a réussi à faire
ça. C'est incontestablement un des grands moments aussi de votre vie scientifique.
C'était le premier grand moment, oui.
Ouais. Et alors, vos camarades qui sont co-récipiendaires du prix Nobel avec vous, hein, Stoddart donc, et Feringa, ils faisaient quoi alors de leur côté et à la même époque alors, parce qu'ils travaillaient aussi sur les machines moléculaires, mais ils avaient des spécificités par rapport à vous ?
Disons, en 1983, personne réellement travaillait sur les machines moléculaires. Les gens travaillaient sur des molécules qui allaient se révéler être extrêmement intéressantes pour fabriquer des machines moléculaires. Mais à l'époque, disons, l'idée de machine moléculaire n'était pas encore dans l'air. Alors Stoddart, c'était beaucoup plus quelqu'un du domaine de Jean-Marie Lane, des récepteurs. Des molécules creuses, des molécules capables d'incorporer d'autres molécules. Et Ben Feringa, c'était quelqu'un de la photochimie. Alors ça veut dire transformer des molécules organiques en d'autres molécules en utilisant la lumière. Et pour lui, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard.
Oui. Donc, ils étaient bien au courant de ce que vous faisiez, vous, alors,
ah
du
oui,
coup, à Strasbourg.
Oui, oui, ils étaient bien au courant.
Ouais. Et vous vous êtes tenu informé ensuite, réciproquement ou
absolument.
Pas ?
Absolument.
Ouais. Vous avez travaillé de concert, vraiment ?
Absolument, oui, oui. Dès que, enfin, nous, on a fabriqué nos premiers anneaux en 83, comme vous l'avez dit, très justement. Et le groupe de Stoddart est arrivé en 1989 pour fabriquer leurs premiers anneaux entrelacés. Donc, ça faisait 6 ans d'écart. Et Ben Feringa, avec les machines moléculaires, donc lui est rentré directement dans le domaine des machines moléculaires, a publié ses premiers résultats très spectaculaires en 1999, donc beaucoup, beaucoup plus tard. Mais on s'est toujours tenu informé, on a toujours eu des relations de copains, quoi.
Ouais. Feringa, lui, crée une nano-voiture, c'est ça ?
Voilà, alors ça, ce sont parmi les résultats les plus récents, de faire une nano-voiture dont les 4 roues pourraient être posées sur une surface. Et
on est à l'échelle nanométrique, on le rappelle pour les gens qui nous écoutent.
La voiture, elle fait peut-être 1,5 nanomètre de long. Alors, je me permets peut-être de rappeler que le nanomètre est au mètre, ce qu'une distance de 30 cm est à la distance entre la Terre et la Lune.
Voilà.
Quand même.
C'est pour avoir une idée un petit peu.
Voilà, ça parle peut-être plus.
Et ce sont de véritables voitures miniatures.
Et ce sont
très miniaturisées.
De vraies voitures miniatures. Posées sur des surfaces.
Ça sert à quoi, alors, une nano-voiture comme ça?
Une nano-voiture, je dirais que pour le moment, c'est beaucoup plus le pari. Est-ce que moi, chimiste, en association avec mes amis physiciens, je vais être capable de faire une nano-voiture posée sur une surface et de la faire bouger?
Donc il y aurait un coffre dans cette nano-voiture.
Un jour, oui.
Qui pourrait transporter, justement, des choses particulières.
Qui pourrait transporter d'autres molécules, qui pourrait transporter des molécules thérapeutiques, etc.
Voilà, on peut imaginer des voitures transporteurs de médicaments pour aller cibler quelque chose de très précis, par exemple.
On peut imaginer d'autres objets que des voitures, simplement des conteneurs qui vont aller se promener avec quelque chose dans le ventre et qui vont ensuite ouvrir leur couvercle.
Voilà.
Pour
cibler,
cibler quelque chose dans un organisme, par exemple. Oui.
Jean-Pierre Sauvage, est-ce que ça vous ferait plaisir d'écouter Jimi Hendrix, par exemple?
Avec grand plaisir, oui, bien
avec
sûr.
Avec All Along the Watchtower. Ça vous va, ce titre?
Ça me va parfaitement.
Eh bien, c'est pour vous souhaiter la bienvenue cet après-midi dans La Tête au Carré. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion sur les machines moléculaires. Voici donc Jimi Hendrix.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever.
Voilà, Jimi Hendrix, c'est pour vous, Jean-Pierre Sauvage.
Merci.
Fan de cet artiste, apparemment.
Oui, oui, mais d'autres artistes aussi.
Vous avez le temps d'écouter de la musique en ce moment, d'aller au concert?
Un petit peu, quand même.
Oui,
j'étais hier soir au concert avec mon épouse, mais c'était de la musique baroque.
Très bien, et c'est à Strasbourg, en l'occurrence.
Voilà, à Strasbourg.
Ouais. Ces machines moléculaires dont on parle avec vous, qui vous valent ce prix Nobel, est-ce qu'on peut les trouver dans la nature?
Ah oui, dans la nature, elles ont un rôle absolument déterminant. Et ce sont ces machines qui ont en partie inspiré les chimistes et qui les ont envoyées vers la fabrication de machines moléculaires. Dans tous les processus biologiques importants, on a des machines très très complexes. Des machines, des moteurs linéaires, des objets qui marchent sur des rails, des moteurs rotatifs. Et si vous me donnez juste quelques secondes, je voudrais parler d'une machine moléculaire biologique et extrêmement importante, qui est l'ATP synthase.
Alors,
l'ATP,
qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un truc un peu compliqué, on va passer les détails. Mais disons, c'est l'adénosine triphosphate, c'est le fuel biologique. C'est-à-dire que, disons, c'est le vecteur d'énergie dans notre corps.
De la cellule?
Dans la cellule, disons, pour tous les organismes vivants, c'est exactement le même fuel. Et au lieu de brûler un fuel, disons, comme quand on met de l'essence dans notre voiture, on hydrolyse l'ATP en ADP, donc c'est une forme dégradée, simplement. Et cet ATP est fabriqué par un moteur rotatif qui s'appelle l'ATP synthase.
Et tout ça dans la cellule.
Et tout ça dans la cellule. Et disons, de nouveau, pour tous les organismes vivants. Mmh. Et il faut savoir que l'ATP, c'est extrêmement important. On fabrique chaque jour la moitié de notre poids en ATP. Je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs, mais c'est quelque chose de phénoménal. Donc cette enzyme, ce moteur rotatif, c'est vraiment une enzyme totalement essentielle.
Et vous en aviez connaissance au moment où vous avez créé ces machines moléculaires ? Ça vous a inspiré vraiment ?
Disons, ça a contribué à inspirer notre communauté. Peut-être pas mon équipe en particulier, mais ça a certainement inspiré notre communauté.
Ouais.
Et la mise en évidence, disons, du mouvement rotatif de cette enzyme, de cette ATP synthase, a été réalisée de manière absolument formidable et exemplaire à la fin des années 90, par un travail japonais qui a démontré qu'on avait un moteur rotatif.
Alors, quelles applications possibles aujourd'hui, Jean-Pierre Sauvage, avec ces machines moléculaires ? Vous avez une idée plus claire, au fond, d'utilisation possible ?
Alors, je vais commencer par dire quelque chose que je considère comme important. C'est que ça a été de la recherche fondamentale pour beaucoup d'équipes, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui nous ont rejoints. Donc, recherche fondamentale dit origine de toutes les applications qui vont sortir. Mais bien sûr, on se fatigue ou on s'escrime à essayer de trouver des applications au moins potentielles.
Oui.
Alors, il y en a au moins une qui semble relativement avancée, qui est liée à l'information et à la manière dont on peut stocker et manipuler l'information. En d'autres termes, faire des ordinateurs à base moléculaire, avec des machines moléculaires.
On va être capable de faire ça ?
Disons, il y a déjà des essais très convaincants sur l'utilisation d'un langage binaire avec une machine.
Oui.
Par exemple, déplacer un anneau d'une position à une autre position, puis revenir. Et ça a été fait par le laboratoire de notre ami Stoddart, Fraser Stoddart. Donc, il y a des choses très, très convaincantes dans ce domaine.
Ça pourrait permettre d'augmenter le stockage, justement, des machines
Disons, ce qu'ils ont réussi à faire, ça a conduit à un stockage d'informations qui est beaucoup, beaucoup plus dense que celui des transistors, que celui du silicium. Alors, est-ce que ça va déboucher rapidement? Je ne sais pas, mais les chances me paraissent...
Application intéressante.
Vraiment intéressante.
En tout cas. Avant de se quitter, Jean-Pierre Sauvage, j'aimerais vous proposer la voix de Catherine Deneuve. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant l'extrait de Boomerang. C'était jeudi dernier, là, sur France Inter. Voilà ce qu'elle disait.
Quand le réalisateur Arnaud Desplechin dit que vous êtes le Bob Dylan français.
Ça, c'est plus insolite. Ça veut dire que j'ai eu le prix Nobel de...
Non, justement.
J'ai eu le prix Nobel. Ah, bah si. Hein.
Mais vous avez eu deux Césars, en revanche.
Oui, mais enfin, j'ai le prix Nobel aussi à ce moment-là.
Vous aimeriez la voir ?
Non.
Celle qui a inventé la récompense.
Enfin, je dis non. C'est idiot de dire non. Je n'ai rien fait, je veux dire, pour recevoir le prix Nobel. Je ne pense pas que je recevrai le prix Nobel, non. Mais enfin, c'est un des prix que je trouve réellement prestigieux, le prix Nobel.
Ah ben voilà, c'est quand même pas mal, hein, Jean-Pierre Sauvage.
Quel compliment.
Dans la voix de Catherine Deneuve, voilà, c'était jeudi dernier, sur France Inter. Avant de se quitter dans quelques instants, on voit les sciences bousculées de toutes parts aujourd'hui, aux États-Unis en particulier. Je ne sais pas si vous avez des collègues américains avec lesquels vous discutez. Est-ce qu'aujourd'hui, porte-parole aussi de la science, en tant que Nobel, vous avez envie de défendre aussi la recherche telle qu'elle peut se faire encore aujourd'hui ?
Oui, j'ai envie de défendre la recherche et même de la promouvoir auprès de tout un ensemble de gens. Disons, auprès des pouvoirs politiques, bon, il semble évident que la recherche fondamentale doit être défendue, puisque c'est vraiment l'origine de toutes les technologies que nous utiliserons demain et après-demain. Mais je veux aussi promouvoir la science auprès des jeunes générations qui se sont peut-être pas suffisamment penchées sur la beauté, l'intérêt de la science.
Est-ce que vous iriez jusqu'à manifester pour descendre dans la rue pour la science ? Il y a une marche pour les sciences qui sera organisée en avril prochain dans toutes les villes du monde. En France, à Strasbourg par exemple, il y aura une marche pour les sciences. Est-ce qu'on pourrait y voir Jean-Pierre Sauvage ou...
Franchement, j'ai pas encore réfléchi à cette question.
Mais il vous semble important, en tout cas, de monter au créneau aujourd'hui ?
Oui, ça me paraît absolument essentiel, oui.
Est-ce que les scientifiques ne sont pas forcément très à l'aise avec ça aux États-Unis, en tout cas, se politisent de plus en plus pour défendre justement ce qu'on est en train de leur enlever ?
Oui, bah, disons, la plupart des scientifiques que je connais sont très inquiets par la nouvelle présidence.
Donc la vigilance est de mise ?
Oui, oui. La vigilance est de mise, mais je ne sais pas quels sont les moyens dont ils peuvent disposer.
Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Sauvage d'être venu
merci de m'avoir invité.
Aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on vous attendait. On a réussi à mettre au point ce rendez-vous et je vous en remercie beaucoup pour de nous avoir parlé entre autres donc de ces travaux sur les machines moléculaires. On
merci
va suivre ça dans les décennies qui viennent.
Merci beaucoup.
Et bon retour à Strasbourg. Merci beaucoup à vous. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Prix Nobel de l'histoire dans un instant avec Affaires Sensibles.
Dites-moi, ça sera le prix Nobel du fait divers pour le coup. Nous allons raconter l'histoire des diaboliques. Trois jeunes assassins en 1984. Deux garçons, la fille, elle sert d'appât. Et d'ailleurs, ça donnait le titre du film de Bertrand Tavernier à partir du livre de notre invité, Morgan Sportes. En 1990, il consacre un livre à cette affaire intitulé donc L'appât.
Et ce sera juste après les infos. Merci Fabrice Drouel, à tout à l'heure.